Espace 2, Annick Chuin.
Nous nous croisons souvent, nous passons parfois nos vacances dans leur pays. Ils viennent chez nous pour s'y réfugier et y travailler. Pourquoi est-ce si difficile de nous comprendre? Quelle est cette identité qui nous travaille, les uns et les autres? Vous êtes dans le meilleur des mondes, bienvenue à vous. Le meilleur des mondes reçoit Reda Benkiran, auteur de « Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine », un ouvrage paru aux éditions du Cerf dans la collection « L'histoire à vif ». Reda Benkiran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes d'origine marocaine, vous avez étudié à Genève, à l'Institut universitaire d'études du développement. Vous avez là fait un diplôme sur l'urbanisation. L'urbanisation où ?
Au Maroc.
Au Maroc ?
En fait, c'est une recherche en sociologie urbaine qui a été entreprise déjà il y a pas mal d'années. C'était en 1989-1990 et où j'ai mené une enquête de terrain de 6 mois dans les plus grands bidonvilles de Casablanca. Donc je m'intéressais à l'époque au changement culturel dans l'espace urbain. Et l'idée c'était de voir dans un milieu extrêmement pauvre, extrêmement défavorisé, comment ces populations intégraient le changement culturel des populations originaires d'un monde rural. Et donc il y avait toutes sortes de problèmes nouveaux qui se posaient à eux dans une grande capitale comme Casablanca. Et donc, j'ai consacré quelques années à ce sujet.
Vous avez vécu à Casablanca ?
Pendant la durée de ma recherche, oui. Donc, j'ai fait surtout une enquête de fond, donc 6 mois. Je suis très, très fier de ce travail de terrain parce que j'étais parti à l'époque pour faire un travail sociologique, anthropologique, où je devais recueillir une dizaine d'histoires de vie. Et j'en ai réalisé à peu près une centaine. Donc, si vous voulez, le travail de terrain, la connaissance des gens, de leur milieu, a été très réussi et par la suite il a fallu travailler l'aspect théorique et boucler la thèse. Ça a pris quelques temps quand même.
Vous êtes né où ?
Je suis né à Rabat au Maroc et j'ai très vite migré, mes parents étant des fonctionnaires internationaux, donc on est parti un peu partout, un séjour aux États-Unis, la Suisse, j'ai vécu en Algérie à 2 reprises, au Liban. Et puis en Égypte et voilà, et retour en Suisse. Donc finalement, Genève, c'est une ville que j'ai adoptée et finalement je me suis stabilisé à Genève.
Donc vous avez choisi Genève. Est-ce que Genève vous a également adopté ?
C'est peut-être encore un peu tôt pour le. C'est des fois je me pose cette question. Mais j'aime beaucoup Genève et j'aime beaucoup la qualité de ses habitants. Il y a dans l'histoire des villes qui sont le creuset. On parle dans le Moyen-Âge de Cordoue, on parle aussi de Salonique. C'est des villes où il y a eu une grande tolérance, une grande ouverture, toutes sortes de religions, de cultures. Et Genève, voilà, a ce profil, tradition religieuse tournée vers une tolérance,
ouverture.
Une ouverture. Et voilà, le destin international de Genève aussi, qui en fait une ville-monde, même si c'est une toute petite ville. Donc j'aime bien ce modèle et je trouve qu'il faudrait l'exporter un petit peu en ces temps troublés où les gens, disons, se crispent face au problème d'altérité. Genève est un exemple assez intéressant.
Et vous qui vous intéressez, qui vous passionnez pour le dialogue interculturel, vous pouvez y rencontrer à peu près tout le monde.
Exactement, voilà, le dialogue interculturel et interreligieux. Non, il y a une qualité de gens. Et les rencontres sont sereines et à la fois approfondies. Il n'y a pas la passion que l'on peut reconnaître dans d'autres pays où les débats tout de suite prennent un aspect polémique. Donc j'aime bien le regard sur le monde depuis Genève parce que c'est un territoire petit, mais c'est un point de vue sur le monde. Et si vous voulez, ce point de vue vous permet une certaine liberté de pensée, une ouverture. Vous n'êtes pas soumis à des groupes de pression. Et donc, je dois beaucoup à cette station helvétique, si je puis dire.
C'est quoi ce qui fait ce calme? On va dire Genève, puisque vous êtes à Genève, toute la Suisse n'est pas comme cela.
Certainement.
Qu'est-ce qui fait ce calme propice à la discussion à Genève, malgré les événements politiques dans le monde, mais aussi en Suisse? On sait bien que les votations ne sont pas toujours en faveur du dialogue interculturel. Qu'est-ce qui fait, selon vous, ce calme? C'est la situation géographique de Genève?
Pas seulement, il y a aussi l'histoire de Genève. Bon, Genève est aussi... Bon, vous savez mieux que moi, mais Genève a été aussi une république autonome et elle n'est entrée dans la Confédération que récemment, mais il y a la tradition aussi religieuse, l'histoire de la réforme, etc., qui forme une couche importante qui favorise, si vous voulez, les échanges et les rencontres. Et puis il y a la situation internationale, la place des grandes organisations internationales des Nations Unies. Je veux dire, ces villes ouvertes, il y avait, c'est des lieux de commerce, c'est des lieux de finances. Il faut reconnaître que le poids aussi de l'économie, vous n'avez pas une immigration, si vous voulez, de prolétaires. Vous avez quand même des gens, des cognitaires qui viennent à Genève, qui discutent et qui travaillent dans les instances internationales, qui fabriquent le droit international. Donc, si vous voulez, vous avez quand même une élite un peu mondiale qui se retrouve à Genève. Et c'est ça qui fait... Vous avez le CERN, vous avez le plus grand laboratoire de physique des particules au monde. Quelques grands esprits, bien sûr, Piaget et d'autres. Le fait aussi que le CERN aussi, le web est né à Genève, donc c'est des choses qui sont importantes, qui ont eu des incidences sur le devenir du monde. Donc voilà, c'est une petite ville, mais c'est un point de vue sur le monde, je trouve.
C'est amusant parce que vous avez dit vous avez Reda Benkirane, peut-être dans peu de temps vous direz nous avons, on verra cela. C'est aussi une ville qui vous permet de travailler, puisque donc vous, je l'ai dit, vous êtes sociologue, vous êtes journaliste, vous êtes surtout consultant auprès d'organisations non gouvernementales et d'organisations internationales, par exemple auprès du Conseil œcuménique des Églises.
Voilà, exactement. J'ai travaillé en tant que responsable d'information pour un programme d'information autour de la campagne commerce mondial et questions relatives au sida. Donc c'était un programme qui essayait de développer une campagne internationale autour de ces deux axes et j'étais responsable de l'information. C'était une expérience assez intéressante parce que j'ai pu découvrir un peu toute une constellation d'organisations non gouvernementales mais à sensibilité religieuse chrétienne. Et ça m'a amené aussi en situation un peu d'altérité de découvrir des organisations religieuses, mais qui ne sont pas du tout, qui ne font pas du tout de prosélytisme, mais qui font du développement.
Travailler sur du concret, c'est une façon de discuter qui est propice.
Exactement. Et il se trouve qu'il y a aussi des organisations islamiques, comme le Islamic Relief, le Secours Islamique, ou juives, qui œuvrent dans des questions difficiles liées aux guerres, problèmes humanitaires, etc., et qui ne font pas de prosélytisme, mais appliquent leurs principes religieux en secourant le prochain, en faisant des campagnes de parrainage d'orphelins, en intervenant dans des situations d'urgence, dans tous les grands conflits.
Et qui travaillent ensemble parfois.
Voilà. Et qui font aussi de l'interreligieux sur le terrain et qui travaillent ensemble parfois. C'est ce qui va peut-être prochainement se passer. Par exemple, maintenant qu'il y a eu le règlement du conflit au Sud-Soudan. Donc,
presque le règlement, ouais, hein, on ne va pas oublier le Darfour.
Ouais. Oui, mais c'est vrai. Mais pour la question du Sud-Soudan, donc il y a des organisations islamiques comme Islamic Relief, qui est une ONG britannique qui travaille déjà dans le sud et qui va travailler en partenariat avec des organisations chrétiennes. Donc c'est des choses très très concrètes qui concernent la vie de milliers de gens sur le terrain.
J'ai l'impression, Reda Benkirane, que tout vous intéresse. On va citer l'un de vos livres en 2002, La complexité, vertige et promesse, 18 histoires des sciences. On a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, où vous parlez de sociologues comme Edgar Morin, de philosophes, mais aussi Ilya Prigogine. Enfin, la science vous passionne comme un moyen, on en parlera certainement dans cette émission, un moyen de connaître et de comprendre le monde. Et vous avez fondé une agence de communication, je cite, c'est une agence couvrant une palette d'activités liées au métier d'information. Alors si on va sur ce qui m'est arrivé, donc si on surfe sur votre site, eh bien on peut trouver tout ce qui nous intéresse sur l'islam, sur l'islamisme, sur la jeunesse. J'ai tapé jeunesse parce que j'ai l'impression que c'est un élément qui vous intéresse beaucoup. Hop, on tombe sur les villes, sur Casablanca, bien sûr. Cette agence-là, pourquoi ?
C'est un travail que j'avais entrepris quand je travaillais en tant que journaliste à la rédaction du Temps Stratégique, et je m'étais intéressé à la vague Internet qui venait de commencer, donc c'était à peu près il y a une dizaine d'années, et j'ai éprouvé le besoin de faire quelque chose orienté autour d'un axe nord-sud en matière d'information, et je me suis mis à prendre des éléments de ma bibliothèque personnelle, des articles, des entretiens, et essayer de mettre ça en ligne et de décliner ça de manière même des fois multimédia, aussi des entretiens. Et c'était une manière aussi de partager un peu une passion. Donc je l'ai fait de manière, si vous voulez, très désintéressée.
Association à but non lucratif.
Voilà. Et puis ça pris beaucoup d'importance par le nombre de visites sur ce site. Je n'arrive pas toujours à suivre depuis quelques années, malheureusement, parce que je fais ça tout seul. Mais je dirais que c'est un peu ma bibliothèque personnelle, et j'essaye de mettre des choses pour partager autour de mes passions, et que ces passions se retrouvent autour de l'interdisciplinarité, donc le dialogue des cultures et des sciences, et de l'interculturel et de l'interreligieux. Donc, si vous voulez, j'ai pensé que ça pouvait servir de plateforme sur le web, comme une zone d'entre-connaissance, si on peut.
Et pour aller sur cette plateforme, on a qu'à taper Archipress, A comme un arrobase, Chipress, P-R-E-2-S, mais tout ça nous mettrons sur notre propre site internet de la radio suisse romande. Votre dernier ouvrage, Reda Benkiran, Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine, qui est paru aux éditions du Cerf, ce serait le résultat de toute cette réflexion, de tous ces travaux, de tous ces axes, ou une partie en tout
cas.
C'est
un travail sur la question identitaire, la question des appartenances. C'est un travail que j'ai fait qui est assez personnel, puisque je suis musulman. J'ai été confronté depuis une vingtaine d'années à l'image du musulman, à l'image des musulmans, de l'islam, en tant que religion, en tant que culture. Je crois que j'ai depuis tout temps, depuis que je me rappelle, été confronté à cette question. Et c'est pour cela aussi que j'ai beaucoup de difficultés à dire « non », ou ce nous, à moins que ce nous ne désigne toute l'humanité. Mais j'ai toujours été en situation d'altérité ou de confrontation par rapport à des questions qui, de toute façon, des appartenances qui nous dépassent. Mais si vous voulez, j'ai voulu faire un travail sur la question de l'islam qui touche maintenant beaucoup les jeunes, non seulement dans le sud de la Méditerranée, mais aussi en Europe. Si vous voulez, j'ai fait une synthèse entre des voyages, des rencontres personnelles, des engagements passés et des lectures, et voilà, j'ai observé, je suis un peu dans ce livre comme une caméra, et je me déplace à travers différents espaces et moments, et j'essaye de révéler ou de donner à voir différents points de vue chez différents acteurs, dans différentes situations, et j'ai rencontré souvent des gens qui n'avaient peut-être pas les moyens de s'exprimer dans la presse ou l'édition, et j'ai essayé de restituer un petit peu leur parole ou ce qu'ils m'ont dit. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont rêvé à changer leur société, et si vous voulez, je boucle un travail sur ma jeunesse personnelle, donc c'est aussi ça. Mais la question identitaire touche aussi, je pense, nous touche tous, hein, nous sommes tous interpellés.
Et quelle que soit notre religion, voilà, notre culture.
Oui, nous sommes à un moment de bouleversement total, et la fin de la guerre froide, accélération de l'histoire, révolution technologique. Donc au niveau de la longue histoire, nous sommes vraiment à un changement très important. Certains disent que c'est de la magnitude de l'invention de l'imprimerie ou de même de l'écriture. Et face au bouleversement en cours, à l'abolissement de l'ancien espace-temps, donc l'espace-temps informatique, les distances sont abolies, on est confronté à beaucoup de défis, et je pense que le réflexe, c'est de s'accrocher à ce qui nous paraît le socle le plus certain. Et donc on commence à être un peu obsédé de la question identitaire, et je pense qu'il y a une partie qu'il faut déconstruire et montrer qu'il y a des bouleversements, et c'est pour ça aussi qu'on se fige parfois. Donc les fondamentalismes, les extrémismes, même en Suisse, on voit que des partis populistes avec des idées assez simples mobilisent. Tout ça est très parlant, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la planète. Et donc moi, mon livre, si vous voulez, explore un peu ce qui se passe dans le monde arabe et musulman, mais cette question aussi mobilise les chrétiens et les juifs. Et voilà, la question des fondamentalismes, des replis identitaires est une question qui, semble-t-il, touche tout le monde. Hein. On parle de la fameuse théorie des civilisations. Je pense que c'est quelque chose qui va durer quelques années et puis ça sera une étape de passer dans l'histoire de nos sociétés.
Sur le plan personnel, vous, Reda Benkiran, à la question « Qui suis-je ?», vous savez répondre ?
Cette question me posait beaucoup de problèmes au sortir de l'adolescence et j'ai passé pas mal de temps j'étais en face à un désarroi moi-même et je pense que j'ai voulu m'identifier à différentes communautés, à différentes causes, à différents engagements et bon, c'est une vie d'homme que de découvrir sa propre voie. Donc moi j'ai trouvé ma voie, mais comme je vous dis, j'ai l'impression que le monde entier
cherche sa voie. Oui, mais comme on aime bien définir les gens et que les auditeurs ne vous voient pas, j'ai dit que vous étiez d'origine marocaine, vous êtes plutôt jeune, vous êtes né en
62.
Alors, vous êtes même très jeune. Vous êtes musulman. Métissé d'occidental ou pas du tout ? Comment vous vivez ça ?
Je suis un métis absolu. Ça a été ma condition première. En Occident, j'étais perçu comme l'oriental ou l'arabe ou le musulman. Chez les riches, je suis perçu comme le pauvre. Chez les pauvres, je suis perçu comme l'occidental ou comme le riche. Enfin, j'ai toujours dû endosser différentes étiquettes. Mais c'était très très difficile à porter il y a 20 ou 30 ans parce que nous étions dans des espaces nationaux, des états-nations. Nos loyautés étaient très figées. Nous avions une seule nationalité, un seul passeport. Donc c'était très difficile d'être un métis à cette époque. Mais justement, depuis la fin de la guerre froide, depuis cette révolution technologique, cette économie de la connaissance qui se met en place, le métis est quelqu'un de très recherché, d'être au croisement de disciplines, d'appartenance. Et je me trouve très bien dans cette époque. Mais je constate qu'autour de moi, les gens perdent un petit peu leur repère et j'ai un peu d'expérience en étant, si vous voulez, à l'interface de plusieurs réalités, de plusieurs cultures. Et donc, je suis au croisement de beaucoup d'appartenances.
Et votre livre nous aide à réfléchir à cette question d'identité. Comme vous le disiez, bien sûr, il concerne l'islam, les arabes, mais on peut se projeter tous dans cette recherche. Vous l'avez appelé le désarroi identitaire, c'est un essai, ça c'est sûr. Mais ce qui est aussi certain, c'est que c'est un essai poétique. L'essayiste et poète, d'ailleurs, Salah Stettier le dit dans sa préface. Vous déambulez à travers votre recherche, vous nous la présentez sous une forme poétique. Est-ce que c'est parce que la sociologie serait trop réductrice, par exemple, et qu'il n'y a que l'histoire, la poésie, le passage qui permet d'exprimer tout ce que vous voulez dire?
Je ne suis pas, si vous voulez, j'ai choisi la voie la plus difficile pour parler de l'islam, la plus difficile dans le sens où, à l'ère des médias, l'islam est un sujet qui est très à la mode, qui fait vendre. C'est un objet parasité, c'est un sujet parasité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la série, qui sont spécialistes de la question, qui analysent de manière politique, géopolitique. Et j'ai voulu, si vous voulez, réagir par rapport à cette approche très, très unidimensionnelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi, je pense, ce qui ressemble le plus au monde que j'ai observé. Si vous voulez, j'ai choisi la voie poétique. J'ai fait un travail sur la langue parce que j'ai pensé que je restituais le mieux, les gens.
C'est la chair, c'est jusqu'à l'âme. Un mot que vous prononcez, que vous essayez de nous faire connaître.
Voilà, si vous voulez, c'est pour moi essayer de restituer une totalité. Si vous voulez, je suis très critique face aux spécialistes actuels de l'islam.
Qui nous obligent à être manichéens.
Je vais plus loin, c'est-à-dire que jamais nous n'avons eu autant de spécialistes de ce sujet, et pourtant, l'islam est un objet de connaissance qui est de plus en plus difficile à atteindre. C'est-à-dire que les gens, concrètement, dans la rue, ont une très mauvaise connaissance du sujet. À l'ère de l'explosion de la connaissance, nous avons une floraison de spécialistes et nous avons un recul manifeste de la connaissance du monde islamique, un monde si proche. C'est ce qui est d'autant plus désolant. Et je pense qu'en essayant de parler d'une manière plus poétique, si vous voulez, mon texte ressemble aux choses et aux êtres que j'ai rencontrés, aux villes. J'ai voulu faire un travail de ce type, une réalité complexe où il y a plusieurs dimensions, il n'y a pas que le politique. D'ailleurs, quand vous allez dans les pays du Sud, au Maghreb ou au Mashrek, ben, les gens ne se reconnaissent pas dans l'image que les médias projettent sur eux, parce que ne vivent pas que l'aspect politique de la question. C'est une civilisation, c'est une culture de fête, de joie, de solidarité. Et donc, je dirais que ces spécialistes, finalement, je serais un peu méchant, mais j'ai l'impression que ça verse plutôt vers le renseignement. Si vous voulez, aujourd'hui, ces spécialistes, leurs ouvrages peuvent être facilement décodés par un agent de renseignement ou un spécialiste de questions de sécurité. Mais vous prenez, par exemple, des ouvrages de personnes illustres comme Jacques Berck ou Salah Stettier ou d'autres, ça demande un effort parce que ces gens-là font de la grammaire comparée, vous parlent de l'art de nouer le tapis maghrébin, la musique classique ottomane, la musique andalouse, la poésie anti-islamique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a...
Tout ce dont l'homme est fait, en l'occurrence là l'arabe musulman. Mais vous écrivez pour qui? Pour nous occidentaux, non-arabes? Pour les arabes aussi musulmans?
J'ai écrit pour... mon livre s'adresse aussi bien aux gens d'ici, aux occidentaux, qu'aux gens d'Afrique du Nord en particulier, parce que ce texte est écrit en français. Oui. Et donc, au Maghreb, les gens lisent le français, et c'est une langue qui est... si vous voulez, il y a un regard à la fois qui extérieur. J'essaye de me décentrer, j'essaye de prendre une distance critique. Je crois que j'ai essayé d'être critique par rapport à la société, à la culture d'où je viens, et en même temps, par rapport à cette vision de l'islam en tant qu'altérité radicale, j'essaye de corriger, j'essaye d'indiquer d'autres manières d'approcher ce monde.
Vous cherchez, Reda Benkirane, à comprendre, donc, ou à nous faire comprendre le monde arabo-musulman de l'intérieur, pour que nous puissions mieux l'appréhender, pour que peut-être ceux qui vous lisent et qui sont arabes et musulmans sachent de quoi ils sont faits aussi. J'imagine qu'en lisant ce livre, ils découvrent aussi un aspect de leur mémoire collective, leur histoire également. Un monde dont nous parlons beaucoup à travers les médias, les faits divers et les événements souvent violents. C'est d'abord notre interprétation occidentale du monde arabe que vous mettez, monde arabo-musulman, il faut le préciser, que vous voulez questionner, que vous voulez peut-être transformer. Où est l'erreur, en fait?
L'erreur, elle est au niveau de la communication. Nous sommes dans un âge où la donnée la plus importante, c'est l'information. Nous sommes à un âge où prolifèrent toutes ces sortes de systèmes de communication. Et la manière d'observer un phénomène, l'appareillage que vous utilisez pour observer une réalité influe sur la réalité que vous observez. C'est une vérité pas simplement sociologique, elle est scientifique. Déjà au début du siècle, dans la microphysique, c'est une vérité opérative au niveau subatomique, c'est-à-dire que selon ce que vous regardez, le monde microscopique, selon l'appareillage dont vous disposez, vous actualisez une potentialité parmi d'autres. Et c'est exactement ça avec ce monde ubiquitaire de la communication, cette membrane qui recouvre la planète, tissée de câbles, de satellites, de l'internet. C'est un cerveau global. Et la manière dont on communique sur l'islam, vous ne pouvez pas vous rendre compte combien ça a une influence sur ceux qui sont observés. Donc la relation observateur-observé est fondamentale. Si vous regardez, donc, qu'est-ce qui est biaisé dans la communication? Si vous regardez à travers un prisme unique, en l'occurrence politique, forcément, vous déterminez le champ de réalité que vous allez observer.
Oui, vous alignez dans votre livre, vous citez quelques mots qui viennent à l'esprit de tous ceux qui pensent au monde arabo-musulman. Liban, Israël, Palestine, Algérie, Irak, islam, islamisme, banlieue, violence, terrorisme.
C'est-à-dire que maintenant, on arrive à mettre des équations, l'islam, les musulmans, les arabes dans des équations sommaires. Et ça passe de l'un à l'autre. Je vous rappellerai qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on parlait plus d'arabes. En France, on parlait de maghrébins. Et aujourd'hui, on parle de la confession, de l'aspect religieux. Donc moi, je suis très suspect par rapport à cette manière de catégoriser les gens en fonction de... En fait, ces populations n'ont pas changé. C'est la manière dont on les catégorise qui a changé.
Oh, ça, peut-être, on en discutera. Population qui n'a pas changé. Vous dites quand même que ce regard extérieur change quelque chose. Les événements politiques aussi.
Certainement. Mais je veux dire que, par exemple, en France, l'essentiel de l'immigration vient du Maghreb. Il y a 20 ans ou 30 ans, on a mis l'aspect sur l'accent sur l'aspect Maghreb, origine arabe, etc. Aujourd'hui, c'est l'islam qui semble affoler tout le monde.
Mais l'islam donne de la voix. L'islam se fait entendre, ou l'islamisme se fait entendre.
Ce que j'ai essayé d'expliquer à travers cette relation observateur-observé, vous avez une propriété de couple. Si vous regardez à travers le prisme politique, pour le moment, aujourd'hui, pour être un spécialiste de l'islam, vous faites Sciences Po, vous faites un stage linguistique et vous êtes opérationnel. Et tous les spécialistes de l'islam font de la science politique. Et qu'est-ce qu'ils étudient ? Ils étudient les phénomènes politiques. Et vous avez en face une réalité qui est l'islam politique. Qui pose problème effectivement, mais qui ne résume pas toute la réalité des sociétés qui sont concernées. L'islam politique, si vous voulez, se nourrit du regard de l'Occident. Donc on est dans une relation de couple, si vous voulez. L'un a besoin de l'autre et l'un nourrit l'autre. Ce qui est important de savoir dans cette relation, dans la manière dont on communique, c'est essayons de renouveler le regard, essayons de ne pas avoir que l'aspect politique des choses. Essayons de trouver l'aspect poétique, l'aspect culturel, l'aspect spirituel. Il y a de l'art, on peut découvrir une culture à travers tellement de facettes et réduire à l'aspect politique, finalement, ben, si vous avez ce prisme, vous ne verrez que le politique.
Je suis d'accord avec vous, l'islam politique cache presque tout. Comment sortir, entendre, voir, écouter, mais cela vient aussi de l'islam ou de l'islamisme. Pourquoi tant de férocité dans cette voix qui nous parvient et qui parvient aux jeunes maghrébins des banlieues parisiennes, par exemple ?
C'est une question difficile, mais je dirais, mon analyse est très personnelle. Hein. Pour moi, l'islam politique, il faut le situer dans le contexte de l'urbanisation du monde arabe. C'est quelque chose qui est lié au phénomène d'exode rural. Il y a eu un exode rural massif, et il y a eu des déstructurations, il y a une perte de repères. Et l'islam politique, si vous voulez, a... Moi, je ne le réduis pas à une idéologie, mais plutôt à une pratique. C'est là que je trouve une force. Concrètement, des jeunes qui se trouvent dans des quartiers précaires, dans des situations difficiles, ont une grande probabilité de se trouver en situation de délinquance ou de marge. Et le mouvement islamiste a pris racine dans ces quartiers difficiles en faisant un travail civique, un travail citoyen de mobilisation. Et c'est la force du mouvement, c'est que il a essayé de mobiliser les gens. Alors si vous voulez, nous on voit de loin l'aspect idéologique, le discours. Mais le discours de l'islam politique est en fait assez pauvre. C'est sa pratique qui compte. Et si vous voulez, je n'ai pas un point de vue catégorique sur l'islam politique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est l'ennemi à abattre idéologique. Je pense que si on l'intègre dans un système démocratique, il va se modérer et il va s'impliquer dans le processus démocratique. C'est arrivé, il y a quelques tentatives qui ont échoué.
En Algérie, par exemple, avec le fils, élection interrompue.
Exactement. L'Algérie, c'est un pays que j'ai bien connu. J'ai suivi les bouleversements politiques et là, on a vraiment le cas typique de quelque chose qui a déraillé. Nous avions une situation extrêmement intéressante en Algérie au lendemain des émeutes d'octobre 88, qui mettait fin à la dictature du parti unique. Donc tout de suite, il y a eu un multipartisme et très vite a émergé du terrain la mouvance islamiste. Cette mouvance islamiste a participé à deux élections et dans les deux élections, elle a gagné. Alors c'est tout de suite posé le problème. Faut-il laisser ce qu'on considère comme les ennemis de la démocratie l'emporter au nom de la démocratie? On n'a pas laissé l'expérience se dérouler, on a interrompu le processus et nous avons eu...
Avec les conséquences que l'on sait, ouais.
C'est-à-dire 150 à 200 000 morts et une tragédie nationale, ça a entraîné une guerre civile. Mais il y avait à l'époque, je citerai l'expression du sociologue Lawali Hadi, de l'Université de Lyon qui avait parlé de régression féconde. Il disait dans cette victoire du fils à l'époque, il dit il y a peut-être un enseignement très positif. C'est-à-dire que c'est peut-être une idéologie, un discours dangereux ou qui est limité, extrémiste par certains de ses aspects, mais le fait d'être engagé dans un processus démocratique, il y a un phénomène pédagogique. Cette notion de régression féconde est, je trouve, intéressante. C'est-à-dire, dans un scénario idéal, on souhaiterait que ce soit une autre mouvance qui puisse accéder, mais la réalité, c'est que le peuple a choisi démocratiquement ses représentants. Au fond, pourquoi en Suisse, quand un parti populiste emporte les élections, ou en Autriche, quand Haider vient au pouvoir, ça ne pose pas de problème, et ces gens-là jouent le jeu démocratique, c'est-à-dire qu'ils ne mènent, même si on a le droit de débattre de ces idées, on a le droit de ne pas être d'accord avec eux, on peut combattre même de manière assez forte, mais ces gens-là s'inscrivent dans ce processus démocratique. Pourquoi, quand dans les pays du Sud, des partis islamistes viennent au pouvoir, il faut à tout prix les empêcher de renverser des régimes corrompus, des régimes dictatoriaux, etc. Et le drame aussi du monde arabe, c'est le fait que ces régimes politiques en place ne sont jamais délogés par un processus électoral. Donc si vous voulez, si on est démocrate, on accepte que même des adversaires des principes auxquels on croit puissent arriver au pouvoir, mais on fait un pacte démocratique sur un minimum de points clés, à savoir l'alternance du pouvoir, la reconnaissance de la diversité culturelle et politique, etc.
Ça pose pas mal de questions, parce qu'on le voit avec Christophe Blocher au gouvernement, certains sont pas loin de penser qu'ils bloquent ou qu'ils pourraient bloquer le processus démocratique, et que c'était une erreur, dans la mesure où on aurait pu faire autrement, d'ailleurs, de l'accepter au sein du gouvernement.
Moi, je pense que tant que le système démocratique fonctionne, il faut jouer le jeu.
Même s'il y a des heurts.
Oui, même s'il y a des heurts. Voyons ce qui s'est passé en Autriche. Bon, c'était une période difficile et on a eu Haider au pouvoir et on a eu Sharon en Israël. C'est accepté. Pourquoi, quand des gens issus des masses défavorisées, même s'ils ont un discours réducteur, mais qui respectent la loi, qui aspirent à un renouveau ou à un partage des richesses ou à une libéralisation de la parole politique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait être contre les idées des représentants de cette mouvance islamiste, mais il faut reconnaître que c'est la force sociale qui est la plus... qui capte le mécontentement, qui capte la dynamique de contestation dans les populations du Sud.
Vous ne vous érigez de loin pas en juge, Reda Benkirane, mais pour la clarté de vos propos, j'ajouterais que dans votre ouvrage, Le désarroi identitaire, vous êtes tout de même très dur, très sévère avec ces discours réducteurs. Mais ce qui vous permet de dire, c'est que cet islam politique, d'ailleurs il y a un instant, vous l'avez évoqué, au fond ne dit pas grand-chose, a un discours assez creux, mais que ce discours est néanmoins efficace. Donc il faut faire attention. Ces jeunes que vous avez écoutés dans les banlieues, que ce soit dans les bidonvilles de Casablanca, dans les banlieues du Maghreb ou dans les banlieues françaises, comment ressentent-ils ce discours? Au fond, pourquoi ce discours passe si bien?
Je reviens du Maroc et ce qu'on me disait, c'est que finalement, c'est dans ces mouvances islamistes, ces gens appliquent les principes de solidarité. Si vous voulez, ils appliquent, c'est leur action qui
est déterminante. Je comprends bien, mais alors ça veut dire que c'est la seule issue. On entre, comme vous le dites, en islamisme, un jeune entre en islamisme parce que c'est la seule issue ou la seule proposition pour un futur qui lui est offerte.
Mais on entre pour un islamisme, et l'islamisme, on peut évoluer, et l'islamisme évolue. Dans l'islamisme, je pense qu'une bonne comparaison, c'est de voir avec ce qui s'est passé avec le marxisme, et le communisme, et toutes ces variantes. Il y a eu des gens qui pensaient qu'en tout communiste loger le diable. Moi, personnellement, je ne m'effarouchais pas à la vue de marxistes, certains étaient plus ou moins radicaux, mais rappelons-nous que le communisme a tenu la moitié du monde. Il a fait autrement plus de dégâts, autrement plus de dommage à la dignité, à la vie humaine, mais il a évolué et puis finalement il s'est désagrégé. Et dans le communisme, il y avait une idéologie absolument effarante. Si on prend le discours communiste, vous lisez des thèses, des livres marxistes aujourd'hui, vous avez le fou rire. L'islamisme, le discours n'est pas le plus, c'est ce qui est le plus pauvre. Et même, je dirais, le discours, la direction, la tête. Il n'y a pas de tête pensante. C'est pas ça qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est ce mouvement de base, de mobilisation. Et je pense que des études sociologiques l'ont montré. Il y a une prise avec les réalités sociales. Donc, il faut pas accorder trop d'importance à ce qui est dit, mais plutôt à ce qui est fait concrètement. Et c'est pour ça que si vous essayez d'intégrer cette donnée qui aujourd'hui est si manifeste et qui est nourrie aussi du regard occidental et des médias. Je rappelle que si vous voulez, en Algérie, c'était très frappant, les chefs islamistes qui sortaient de prison étaient sans cesse harcelés par les médias français. Et vous aviez tous les jours des reportages, des interviews de ces chefs islamistes dans les télés françaises. Et ces gens, ces dirigeants donnaient leur avis sur tout. À l'époque, c'était le déclenchement du conflit du Golfe. Et étonnamment, ce phénomène de médiatisation tribalisait ces gens auprès des siens. C'est-à-dire que finalement, en Algérie, ces chefs islamistes gagnaient en popularité parce que les médias français les tribalisaient à force de retransmettre leurs propos. Bon, ce processus aussi a concouru un peu à leur perte parce que ils ont voulu manipuler le média, mais finalement, à force d'être exposés, ils ont fait peur aussi. Il y a une surexposition. Ils ont fait peur à une grande partie de la population algérienne. Donc, ça s'est un peu retourné contre eux. Mais je dirais que l'Occident, c'est-à-dire le regard occidental, nourrit cette revendication.
Les leaders en perdraient la tête.
Voilà, quelque chose comme ça.
Vous parlez de cela dans votre livre, notamment de Abbassi Madani, donc chef du Front islamique du Salut, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, qui était un porteur d'idéal, qui selon vous s'est transformé en torche.
Voilà, c'est-à-dire que petit à petit, moi je suis allé chez lui, je l'ai interviewé, mais je me rappelle que devant son domicile, vous aviez toutes les chaînes françaises qui faisaient la queue, et tous les jours, et on leur demandait leur avis sur tout. Et si vous voulez, c'est comme il y a une sorte de propriété de couple. Voilà, les islamistes définissent un espace, leur espace de définition, la société islamique idéale, la charia, etc. Et ils se positionnent par rapport à l'Occident qui est l'antagoniste.
Mm-hmm. Mais si vous voulez, si vous se mettent en frère ennemi quand même.
Oui, mais c'est une relation de couple. C'est-à-dire, il faut voir un peu. Si vous coupez cette référence à l'Occident, l'islamisme n'a plus lieu d'être. Il se décontracte. Et c'est la même chose dans ce regard occidental, dans cette relation entre l'observateur et l'observé. C'est pour ça que pour moi, la seule manière de combattre l'aspect dangereux des idées, aussi bien dans le regard occidental, le regard médiatique, si imposant que auprès des élites islamistes, c'est de montrer la multidimensionnalité de l'islam. Que l'islam est un phénomène spirituel qui a un message universel, que ça a concouru à une grande civilisation, qu'il y a de l'art, qu'il y a des sciences dans l'histoire de l'islam. Donc si vous mettez dans le contexte plus général de l'histoire des civilisations, vous réduisez cette partie dangereuse à ce qu'elle est, à une idéologie.
Donc, si je vous comprends bien, et en fait vous le dites dans ce livre, Le désarroi identitaire, Reda Ben Kiran, vous allez assez loin, vous dites que l'islamisme en fait est très éloigné de la religion.
Mon idée est que cette mise en avant, si vous voulez, l'islamisme a pris dans des sociétés où il n'y avait pas de liberté de la parole, où il y avait des régimes autoritaires. Et si vous voulez, l'utilisation du religieux ici est vraiment instrumentale. C'est parce que, n'oubliez pas que il y a 20 ou 30 ans, l'ennemi c'était tous les mouvements justement de gauche, les mouvements socialistes et communistes. Et on a utilisé au départ les mouvements religieux pour combattre le marxisme, le socialisme dans tous les pays du monde arabe. Ça a été ce phénomène, et ce phénomène a été appuyé par le gouvernement américain, etc. Bon, ça c'est des faits connus. Et si vous voulez, cette prise de parole de certains religieux a pu être possible parce que l'espace est restreint, et donc on utilise le verbe religieux pour pouvoir revendiquer et agir. En fait, c'est des sociétés où il n'y a pas de liberté, et donc la religion est un vecteur, mais ce n'est pas vraiment la finalité. Mmh. Et moi, je suis enclin à penser que finalement, ceux qui poussent peut-être vers la sortie du religieux, comme seraient peut-être justement les islamistes, parce qu'ils posent en tout cas les questions clés sur le rôle de la religion dans l'espace public. Ils utilisent le discours religieux, mais en fait leur action vise à des buts politiques. Ils mobilisent sur le plan de la citoyenneté, du civisme. Donc c'est là où ils sont forts. Le discours est religieux, donc c'est une apparence, c'est une teinture. Mais quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est extrêmement, extrêmement faible comme argumentaire. Donc je dirais que le religieux ici est bon, perverti par certains, pour en voir perverti, mais je dirais que c'est utilisé parce que c'est le seul verbe disponible, bon marché, accessible à tous.
Vous faites une parenté entre ce qui se passe dans les villes du Maghreb, ces grandes villes, et les banlieues françaises, par exemple. Je pense aux jeunes, essentiellement.
Oui, exactement. Donc moi, je me suis intéressé beaucoup à cette question de migration. Et quand j'ai fait un film documentaire en Algérie, j'ai vu des quartiers précaires à Alger, à Casablanca. Et quand j'interrogeais les jeunes sur, disons, leur histoire de vie, leur itinéraire, leur propre déplacement et leur propre configuration familiale, tous mentionnent avoir des cousins, des tantes, des oncles dans les banlieues nord en Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, Italie, Hollande, Belgique. Et j'ai fait le voyage à quelques reprises j'ai retrouvé des membres des gens que j'avais rencontrés à Casablanca ou à Alger. Je les ai retrouvés au nord et j'ai été frappé de voir qu'en fait ces mêmes familles se retrouvaient dans les banlieues urbaines des deux côtés de la Méditerranée, et que quelque part ce qui était en train de se passer, les problèmes de ce qu'on appelle d'intégration en France, etc., donnaient à voir les problèmes qui allaient arriver à Casablanca ou à Alger. Et il y a eu quelques émeutes urbaines en 1981, 1984 à Casablanca, en 1988 à Alger. Il y a des problèmes similaires et c'est une urbanisation en cours qui est apparentée des deux côtés de la Méditerranée. C'est des gens qui, d'extraction rurale, c'est-à-dire issus, peut-être troisième, quatrième, voire plus troisième, quatrième génération d'exode rural, et donc c'est une situation d'oubli. Et c'est pour ça que l'islamisme, l'islam politique, c'est là où il intervient. Si vous voulez, dans l'arrière-pays, dans la campagne, auparavant, le tissu social était enserré par un encadrement religieux de type confrérique, de type soufi, mystique et populaire. Et cet encadrement a cessé de fonctionner avec l'exode rural. Et donc, si vous voulez, la nature a horreur du vide, il a fallu encadrer ces populations qui venaient s'agglutiner dans des périphéries souvent précaires. Et c'est là où l'islamisme s'est mis en place. C'est-à-dire que c'est ça la logique profonde. Alors ce n'est pas du tout le type soufi ou mystique ou confrérique. C'est plutôt civique, politique, mobilisation.
Et ce qu'il faudrait réveiller, c'est la culture, l'histoire, l'art, la musique.
Exactement. Et si vous voulez, quand vous avez une faible instruction, ben vous essayez d'acquérir un bagage culturel. Et l'islam politique aide. Donne ce bagage culturel. Mais à un moment, quand vous allez au lycée, vous allez à l'université, vous lisez, etc., vous émancipez, vous prenez de l'épaisseur, si je puis dire. C'est pour ça que je pense que l'islamisme est quelque chose qui lui-même évolutif, c'est ascendant, c'est évolutif, et aussi les gens qui se réclament de cette idéologie peuvent aussi évoluer.
Qui dit monde arabe dit Israël. Reda Benkiran, est-ce qu'il est impossible de parler du monde arabo-musulman sans parler des juifs ou sans parler d'Israël?
Oui, c'est la grande plaie de fixation dans la région du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question, parce que c'est vrai que dans le monde arabe, on a trop tendance à rejeter sur Israël la responsabilité de tous les échecs. Donc ce n'est pas du tout la démarche qu'il faut entreprendre. Donc c'est vrai que quelque part c'est un repère, mais d'un autre côté il y a aussi ce sentiment d'injustice par rapport non seulement à Israël, mais regardez aujourd'hui avec l'Irak, cette barbarie qui se déchaîne. Donc au sud, les gens sont profondément révoltés par ce qui se passe, par ce qui se passe en Irak, par ce qui se passe aussi vis-à-vis des Palestiniens. Je pense que dans l'opinion publique musulmane, le fait israélien est reconnu. Ce n'est plus ça qui est en question, c'est le sort des Palestiniens. Mais c'est vrai aussi que le monde arabe doit entreprendre un travail critique sur lui-même et ne pas, si vous voulez, rejeter tous ces problèmes sur l'existence d'Israël. Mais c'est un problème immense. Je pense aussi même pour les Israéliens et les Juifs dans le monde, la question d'Israël aussi est une question compliquée.
Qui vous intéresse actuellement ?
Oui, moi je me documente assez sérieusement depuis plus d'une année sur cette question d'Israël, parce que je pense que le désarroi identitaire aussi existe au sein d'Israël et au sein de la diaspora. Les relations entre le sionisme, post-sionisme, les rapports entre religieux et laïcs en Israël. Je pense aussi que de la même façon que pour les Arabes, Israël est une cause commode, les problèmes avec les Palestiniens soudent les Israéliens. Mais s'il n'y avait pas ce conflit, d'autres conflits internes se feraient jour, notamment le problème entre religieux et laïcs qui pose un problème, la question aussi des rapports entre juifs d'Askenaz et séfarades, la question aussi de Israël en tant qu'État juif et démocratique, mais qui a aussi des, comme citoyens, des non-juifs. Donc c'est une problématique difficile parce que il y a une part importante d'Arabes israéliens et ça pose des questions sur la nature juive de l'État d'Israël. Bon, c'est des questions très très compliquées, mais pour le moment j'essaie de lire les historiens, les rabbins, les hommes politiques israéliens et de la diaspora pour comprendre un petit peu le sujet et sa difficulté.
On le comprend bien, Reda Benkirane, ce que vous nous proposez, c'est un cheminement vers l'être, qu'il soit arabo-musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif. Comprendre le monde, c'est ce qui vous intéresse. J'ai rappelé que vous aviez fait un livre autour des sciences qui permettent également de nous situer par rapport au monde. Donc si je résumais votre travail en général et ce livre, Les désarrois identitaire paru aux éditions du Cerf. Si je disais qu'au fond, ce que vous faites, ce que vous nous proposez, c'est un questionnement sur notre place dans le monde. Ce serait une assez belle façon de clore cette émission.
Oui, je pense que je préfère poser des questions que plutôt que d'avancer des faits.
Pas de recette, voilà, ça c'est certain.
Pas de recette, mais c'est un questionnement, oui. C'est une interrogation assez fondamentale sur notre place dans ce monde, à une époque où tout va très vive allure. On craint beaucoup les questions de la faille identitaire, mais finalement c'est peu de choses par rapport à la conscience de faire partie de l'humanité. Parce que je pense que au niveau identitaire, ce dont on n'a pas pris conscience, c'est que notre identité en tant qu'humanité. Je pense que même il y a une grande ignorance à appréhender l'humanité du haut de toutes ces spiritualités, ces religions, ces philosophies. Au fond, jusqu'à présent, on pouvait faire un doctorat en philosophie sans jamais avoir fait de philosophie chinoise ou d'étudier les autres philosophies orientales. Je crois que ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc il faut apprendre l'interdisciplinarité, l'interculturalité, l'être humain, l'humanité est plurielle. Et la faille sismique qui est arrivée justement
en
Asie du Sud nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau et que finalement il nous faut prendre conscience de notre identité en tant qu'humanité, parce que nous sommes aussi une force géophysique et que nous pouvons aussi mettre en danger la vie, menacer la biosphère. Nous avons des activités polluantes, des guerres, et finalement la question identitaire ramenée à cette dimension de l'humanité est secondaire, et il faut prendre conscience de cette identité suprême.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Reda Benkiran, Le désarroi identitaire, que vous auriez pu aussi appeler peut-être, d'ailleurs vous le mentionnez dans votre livre, l'aventure identitaire. Bon, vous avez préféré actuellement mettre l'accent sur ce désarroi qui nous touche tous, Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine, un ouvrage paru aux éditions du CERN dans la collection L'Histoire à vif. Merci.
Merci à vous.
Cet entretien vous était proposé par Annick Chuin avec la collaboration de Gilles Ozaman et Monique Alla. Je vous signale la parution également d'un ouvrage sur le poète libanais Salah Stettié qui signe la préface du livre de Reda Benkiran. Cet ouvrage s'appelle tout simplement Salah Stettié. Il est signé par le philosophe, le professeur de philosophie et écrivain Marc-Henri Harfeux et il paraît aux éditions Segers dans la collection Poètes d'aujourd'hui.